Vous êtes sur RTL.
RTL Matin, première édition, Stéphane Carpentier.
L'actualité de votre dimanche, c'est le sort qui, pour une fois, n'a pas été favorable à Didier Deschamps et à l'équipe de France de football. Vous le savez peut-être, depuis hier soir, on est fixé. La presse est unanime ce matin. Les Bleus ne pouvaient pas espérer pire pour la phase de poule du prochain Euro en juin-juillet 2020. Compétition organisée dans 12 villes de 12 pays. Les champions du monde savaient qu'ils devraient se frotter à une grosse pointure. Sauf que là, Nicolas Georgerot, il y en aura deux.
Et il faudra mettre le bleu de chauffe pour l'entrée en matière. La France débutera face à l'Allemagne le mardi 16 juin à 21h à Munich. Ce sera ensuite, 4 jours plus tard, face à un barragiste à Budapest, dont l'identité sera connue fin mars. 7 possibilités, l'Islande, la Hongrie, la Bulgarie, la Géorgie, la Biélorussie, la Macédoine ou le Kosovo. Les Bleus termineront à Budapest face au Portugal de Cristiano Ronaldo le 24 juin. Un écueil a été évité, c'était le vœu de Didier Deschamps, s'épargner un long déplacement à Bakou. En Azerbaïdjan, il ne se produira pas, même si les champions du monde continuent plus loin dans la compétition. Les deux premiers de chaque groupe sont qualifiés pour les huitièmes de finale, ainsi que les quatre meilleurs troisièmes. Ça laisse de la marge tout de même. Un danger guette les Bleus, toutefois, s'ils terminent deuxième seulement de leur poule. C'est le vainqueur du groupe D qui se dressera sur leur route, potentiellement l'Angleterre ou la Croatie.
Merci Nicolas. Allemagne, Portugal et un barragiste, sans doute l'Islande, selon les pronostiqueurs. La France est dans un groupe redoutable et le patron Didier Deschamps ne pouvait pas le nier hier soir.
Il aurait pu avoir un tirage un peu plus aisé, mais bon, c'est comme ça. On savait les risques qu'il y avait avec un tirage partiel, c'est comme ça. Donc au moins, on sait à quoi s'attendre sur deux adversaires. On attendra le dernier qui se qualifiera au mois de mars. Mais évidemment, il faudra être tout de suite performant dès les matchs de poule. C'est souvent le cas maintenant, depuis un petit moment, que ce soit en championnat d'Europe ou durant une Coupe du Monde. Mais là, on raconte de grosses nations qui ont gagné des titres aussi récemment. Donc voilà, on a un programme chargé.
Didier Deschamps au micro de Julien Ababou de M6 et les 6 groupes de cet Euro 2020, bien sûr détaillés sur notre site rtl.fr. La Ligue 1 suite et fin ce dimanche de la 15e journée avec notamment à 21h Monaco-PSG, ce sera à suivre en direct dans Soir de Ligue 1. Hier, Lille a battu Dijon, 1-0. Montpellier a dominé Amiens, 4-2. Pas de vainqueur entre Nîmes et Metz, 1-1. Score identique, 1-1 entre Reims et Bordeaux. Succès de Nice, 3-1 face à Angers et de Lyon à Strasbourg. Bourg-de-Buzin. Paris-Marseille-Angers, c'est le podium du moment. Le handball, les filles au Japon pour le championnat du monde. Nos Bleus, battus hier par les Sud-Coréennes, viennent de débuter leur deuxième match face au Brésil. Il y a 1-0 pour les Brésiliennes. La Formule 1, c'est le dernier Grand Prix de la saison à Abu Dhabi. Le départ 14h10, tout à l'heure. C'est le déjà champion du monde, Lewis Hamilton, qui s'élancera le premier. À ses côtés, Bottas. Charles Leclerc est en quatrième position. Le Français Pierre Gasly en sixième ligne.
RTL Matin, 7h04.
À Londres, l'émotion toujours, la polémique encore après l'attaque terroriste revendiquée par les djihadistes de l'État islamique. C'était vendredi sur London Bridge. Un ex-prisonnier condamné pour terrorisme en liberté conditionnelle a tué 2 personnes. 3 autres blessés sont toujours hospitalisés ce matin. Boris Johnson, le Premier ministre britannique, s'est engagé hier à revoir le système des libérations anticipées, car cet épisode met plus que jamais en avant, Marie Billon, la problématique de la déradicalisation derrière les barreaux, mais aussi après la prison.
Quand il a été arrêté en 2010, Usman Khan était considéré comme l'un des djihadistes les plus endurcis d'un groupe de 9 hommes. Ensemble, ils préparaient plusieurs attentats à la bombe à Londres. Mais après quelques temps passés derrière les barreaux, il aurait demandé à entrer dans un programme de déradicalisation. C'est ce que son avocat d'alors a déclaré à la presse hier, révélant même une requête rédigée par Usman Khan. Mais l'aide qu'il aurait reçue n'aurait pas été adéquate, a précisé son ancien défenseur. Cela n'étonne pas Ismaël Lissouf, directeur du Salam Project, qui travaille avec des prisonniers radicalisés.
En prison, il aurait dû être soumis à un programme complet et cohérent mené par des spécialistes de la déradicalisation et de l'anti-extrémisme. Pas un chaplain classique ou un gardien de prison. Et des experts auraient dû l'évaluer avant d'envisager sa libération conditionnelle.
Ismaël Lissouf pense donc qu'il est possible soit qu'Usman Khan soit passé à travers les mailles du filet, qu'il ait réussi à faire croire à un référent qu'il avait changé son système de pensée, commencé, soit qu'il ait été re-radicalisé à sa sortie de prison. C'est l'une des questions que les enquêteurs se posent.
Marie Billon, RTL à Londres, en France, un dimanche très pluvieux, une nouvelle fois sur le sud-est, le tout une semaine après les inondations meurtrières dans le Var et les Alpes-Maritimes. 6 victimes, pour mémoire. Ces deux départements et le Vaucluse sont en vigilance orange face à un nouvel événement méditerranéen. Valérie, vous le disiez, on s'inquiète évidemment des dégâts potentiels sur des sols déjà saturés après l'épisode d'il y a 8 jours. Demain, c'est Madrid qui accueille la COP25, les pays du monde au chevet de la planète face à l'urgence climatique. Ce sont les chefs d'État et de gouvernement qui ouvriront ce lundi 10 jours de débats et de discussions. Et dans ce contexte, nous vous annonçons ce matin sur RTL la disparition dès ce week-end de l'auto-train sur les rails de notre pays. Le service aurait dû s'arrêter dans 15 jours, mais ça a été avancé en raison de la grande grève qui débute jeudi. Éric Vanier, adieu donc ce que l'on appelait autrefois les trains auto-couchettes. À l'avenir, le transport des voitures se fera sur camion et ça, les usagers ne le comprennent pas.
C'est dommage que ce service n'existe plus. Franchement, je suis inhabituée. Beaucoup de regrets.
Elisabeth, qui vient de confier sa voiture à la SNCF, direction Toulon, n'est pas la seule à pester. Dominique, qui lui récupérera sa voiture à Saint-Raphaël, est déjà nostalgique.
C'était vraiment pratique, quoi. Dans le sens où, voilà, on partait les mains dans les poches, limite, parce qu'on pouvait partir avec les valises dans la voiture. Quand on avait les enfants, c'était super pratique. La poussette était dedans, tout était pratique, quoi. Alors qu'il nous parle de l'écologie.
L'argument, effectivement, revient constamment. Thomas ne comprend pas pourquoi son véhicule va devoir reprendre le bitume pour atteindre Marseille.
C'est idiot, parce que finalement, l'autotrain, ça fait moins de pollution. Ça fait une économie énorme sur le CO2.
À la place de l'autotrain, la SNCF va proposer un service de transport par camion. Les voyageurs sont sceptiques.
Ça sera sûrement plus cher, je suis sûr que ça sera plus cher. Et on va revenir à la même question, quoi. Je veux dire, le camion, il pollue plus que le train.
Des chauffeurs pourront aussi prendre votre voiture pour la mener à destination, mais ce sera toujours par la route, plus polluant et plus cher.
Merci Éric Vanier. À suivre justement la grève du 5 décembre, le gouvernement plante le décor en annonçant que les régimes spéciaux de retraite, objet du conflit, ça coûte très très cher.
Stéphane Carpentier, RTL Matin. Avec RTL.
RTL Matin, 7h09, la suite du journal, Stéphane Carpentier.
Et nous n'avons jamais été aussi proches de la tant redoutée grève du 5 décembre, c'est jeudi, contre la réforme des retraites. RATP, SNCF, hôpitaux, écoles, police, la grogne sera partout avec ses conséquences. Un vrai cauchemar pour se déplacer et la galère pour gérer les enfants. Le gouvernement s'y prépare, il y a rassemblement général des ministres à Matignon ce dimanche, séminaire entre 16h et 20h. Ce sont les régimes spéciaux qui sont au centre du conflit social. Et ce matin, Gérald Darmanin sort la calculette. Ministre des Comptes Publics, c'est sa spécialité. Selon lui, ça coûte trop cher, Marion Ferrer, 8 milliards d'euros chaque année.
Oui, l'argumentaire du ministre s'appuie sur ce chiffre astronomique. Et le ministre de s'étonner pourquoi l'État doit-il puiser dans les impôts des contribuables pour les financer. L'explication est simple, ces régimes sont déficitaires en raison d'un nombre de cotisants en baisse. Par exemple, à la SNCF, 140 000 cheminots cotisent pour 250 000 retraités. En toute logique, le plus gros chèque lui est attribué, plus de 3 milliards d'euros par an. Derrière, on trouve la RATP, mais aussi la Marine Marchande, l'Opéra de Paris, la Comédie Française. Il existe même des reliquats du passé avec des anciens de l'ORTF, des chemins de fer, des colonies et des manufactures de tabac de la CETA. Si on ajoute les taxes payées directement par les Français, la facture totale grimpe à 9 milliards d'euros par an. Si vous l'ignorez, lorsque vous achetez un bien ou touchez un héritage, par exemple, vous payez des frais de notaire, eh bien, une partie de ces frais finance la retraite des employés du notariat. Idem avec la taxe d'acheminement de l'énergie au profit d'EDF et GDF.
Explication RTL, Marion Ferrer. Merci Marion. Dans le journal du dimanche, sondage IFOP ce matin, les Français disent oui à 76% à une réforme du système de retraite. Sauf que, et c'est le problème du moment, ils ne font pas confiance au gouvernement pour la mener. Il faut ramener vite à la maison les forces françaises déployée au Sahel, c'est le message du jour de Jean-Luc Mélenchon, l'insoumis, après la mort de 13 soldats français au Mali. Les hommages ont débuté dès hier pour l'un d'entre eux, l'adjudant-chef Julien Carrette, père de 2 enfants. Jean-Marc Terrier, environ 200 personnes se sont rassemblées hier devant le monument aux morts de Lérac. Lérac, c'est une commune du Lot-et-Garonne où le soldat a grandi.
Ne pas oublier et honorer la mémoire de ces soldats.
Oui, c'est un hommage qu'il fallait le rendre, c'est sûr. Et c'est vrai que nous, on a été profondément touché, beaucoup d'émotions.
Pour moi, mais pour nous tous aussi, ça a été un moment très émouvant.
Ce souvenir de l'adjudant Carette s'est évoqué, des instants de vie passés avec lui.
Ses parents m'ont confié Julien pour lui donner des cours de musique et il est resté jusqu'à son adolescence.
L'hommage et l'émotion, c'est important.
C'est pour moi, oui.
Un hommage qui soude dans la douleur tout un village.
C'est un enfant de notre commune.
Tout le monde est triste hein, aujourd'hui.
Ah oui, beaucoup.
Je vous sens très ému.
Oui. Et tout ça, ça nous emmène à un enfant du pays.
Une cérémonie, le réconfort des proches, des amis, avant l'hommage de la nation demain aux Invalides.
Jean-Marc Terrier, le reportage RTL près d'Agen dans le Lot-et-Garonne et toute l'actualité, vous allez cliquer sur notre site évidemment rtl.fr. On salue Dario, c'est nuageux à Lille en ce moment, il a 2 degrés dans la cité du Nord mais il nous dit que RTL nous réchauffe. Il y a 6 degrés à Saint-Yor, c'est Yves qui est avec nous, il est déjà réveillé par Ludo. Alors Ludo c'est son chat, Ludo a très très faim et du coup quand il a faim le chat, il saute sur les interrupteurs, du coup ça allume la lumière.
Oh, le boulet, génial, j'adore.
Ça réveille tout le monde. Super histoire, on salue Yves et sur